Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois, hein, qui était donc l'émission consacrée à René Quinton et son plasma de Quinton. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour cette semaine. Et je vous donne rendez-vous aujourd'hui hein, pour une nouvelle émission, hein, donc pour l'émission numéro 2. Hein. Alors là j'ai un petit son, je vais essayer de régler parce que j'ai un petit son qui est un petit peu gênant. Voilà, j'essaye d'atténuer. Hop. Voilà, c'était juste un petit réglage à changer. Alors donc, je vais commencer très rapidement, hein, parce que bon, là, ça va être un sujet très 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 vaste. Hein, donc, comme je vous avais dit la dernière fois, il s'agissait de la Divine Matrice de Greg Braden. Donc, on va traiter ce sujet ce soir ensemble. Alors, je vais passer donc par plusieurs petites choses. Hein. Ça va aller de la biographie de Greg Braden, un peu passer par de la physique quantique, hein, parce que vu que la Divine Matrice parle précisément justement un peu de ce domaine-là, et après un peu plus approfondi justement de ce livre-là que Greg Braden a donc écrit. Alors donc, Greg Braden, c'est qui? Alors, il est né en fait le 28 juin 1954, hein, donc actuellement il a 60 ans. Dans le Missouri, aux États-Unis. Donc, il est actuellement marié avec Martha Reich Braden, qui sont mariés ensemble. Voilà. Donc, j'ai pas plus d'informations, malheureusement, parce que c'est vrai que les informations sont pas très évidentes à trouver. Mais voilà un petit peu, c'est juste savoir où il habite et tout ça, c'est pas le plus intéressant. C'est juste un petit peu, voilà, où il est né, l'âge qu'il a, etc. Voilà. Alors, pour entrer un peu plus dans sa biographie en fait personnelle, hein, donc c'est un auteur qui a écrit de nombreux best-sellers internationaux et est reconnu aussi comme un pionnier dans la tentative de construire un pont entre la science et la spiritualité. Alors, vous allez voir que tout sur son domaine de sa vie, hein, c'est vraiment construire ce pont hein, entre la science hein, et la spiritualité, parce que comme vous devez très certainement savoir, hein, toutes les personnes qui sont scientifiques ne croient pas du tout en fait, à tout ce qui est, on va dire, Dieu, etc. Et compagnie. Hein. Ça, il reste très fermé justement par rapport à ça. J'essaye juste de voir un petit peu ce que c'est que le bruit que j'entends qui est un peu énervant là. J'espère que vous n'entendez pas ce bruit-là qui est un vrombissement. Bon, si jamais il y a un bruit comme ça, vous pouvez essayer de me contacter pour me le dire. Bon, je vais continuer le sujet. Donc voilà, il essaye de vraiment de construire ce pont entre ces deux mondes, qui est vraiment très important, parce que c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre, même si les scientifiques restent très fermés sur la spiritualité. Alors, il a écrit des livres assez connus, hein, comme le Code de Dieu, Le secret de l'art perdu de la prière, L'effet Isaïe, Marcher entre les mondes, Guérison spontanée des croyances et La divine matrice, le sujet justement de ce soir. Alors, Greg Braden, à travers les voyages qu'il a fait hein, dans les hauts lieux spirituels, hein, ça va du Tibet. Vatican, enfin il est vraiment allé vraiment partout dans le monde hein, pour vraiment découvrir de nouvelles choses. Donc grâce à ses connaissances et à ses compétences justement dans le domaine de la science mécanique, ça fait vraiment de lui un spécialiste dans ce domaine-là. Et il a réussi à remettre au centre de notre vie quotidienne, les enseignements bénéfiques des traditions du passé. Donc en fait, c'est tout ce qui était en fait de l'époque hein, qui ont été perdus à travers les âges. À travers ses écrits, justement, il a permis de retrouver des choses très intéressantes. Et vous allez voir que dans ses découvertes, il y a vraiment des choses très très frappantes, et que surtout maintenant, grâce à la physique quantique permettent d'expliquer justement ces choses qui étaient spirituelles à cette époque-là. Donc c'est dans ces hauts lieux qu'il a justement visité pendant plus de 25 ans, hein. C'est entre 20 et 25 ans, on trouve un petit peu les deux références, qu'il a mené ses recherches en étudiant des textes anciens qui sont oubliés aujourd'hui, hein, bien sûr, afin de découvrir le secret intemporel. Donc, en fait, les secrets intemporels qui étaient connues à l'époque et que maintenant sont oubliées. Voilà. Et grâce à en fait à ces recherches, ça permet de ressurgir un petit peu tout ceci. Alors on va rentrer là dans un peu dans son domaine professionnel, hein, parce qu'au début il n'était pas du tout dans ce domaine-là. Hein. Alors en fait, il a fait des postes allant de celui de géologue informaticien auprès de la compagnie de Phillips Petroleum dans les années 70, à celui de concepteur expert des systèmes informatiques pour la société Martin Marietta Aerospace. Voilà. Alors, bien sûr, il n'a pas fait que ça. Hein. Donc, en 91, il devient le premier directeur des opérations techniques pour le développement, pour la mise en place du réseau Cisco System, pardon. En fait, c'est là où je voulais en venir, là où il s'est occupé en fait du développement de l'équipe d'assistance globale qui assurera le bon fonctionnement de l'actuel réseau Internet. Voilà. Donc en fait, bah, le réseau Internet qu'on a actuellement, hein, par le biais que vous nous écoutez, et bah, Greg Braden, il a un peu participé justement à cette création de ce réseau-là. Bah, par la suite, les crises diverses mondiales qui commencèrent à la fin du XXe siècle, bah, ça l'a un petit peu incité à quitter ce monde de l'entreprise pour se consacrer justement à la recherche de solutions aux gros problèmes actuels. Voilà, donc c'est un peu tout ceci qui lui, comment dire, qui l'a un peu décidé à quitter son domaine professionnel, hein, c'est-à-dire de premier directeur de là où il était, hein, du réseau Cisco System. Et ça a un peu justement encouragé à quitter ce travail pour trouver des solutions concrètes. Bah, tous les problèmes de société qui éclatent un peu partout hein, depuis le XXe siècle, hein, les crises économiques, les guerres, etc. De plus en plus importantes. Voilà. Alors de nos jours, bah, il est quand même considéré comme une autorité reconnue parmi ceux qui s'attachent à relier donc les connaissances du passé à la science, à la médecine et à la paix de demain. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est devenu une référence dans ce milieu-là, hein, ce qui n'est quand même pas rien. Et grâce à en fait à toutes les recherches qu'il a menées et qui continue encore de nos jours à faire. Alors quelques, on va dire de livres, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, il y avait l'éveil au point zéro qu'il a écrit, et aussi en 97, ben, parce que j'ai pas retrouvé la date hein, de sortie du livre d'éveil au point zéro. Marcher entre les mondes est sorti en 97. L'effet Isaïe, il a été sorti donc en 2001. Et l'un de ses premiers best-sellers, enfin celui qui a été vraiment le plus frappant, ça a été donc Le Temps Fractal. Il a été sorti quand même en 17 langues dans 33 pays. Et il a été cinquième position du palmarès du New York Times. On va dire, ouais, c'était ça, 15 jours après sa sortie. Donc, il a vraiment monté très très rapidement. Hein. Ça, c'était en 2010. Donc, c'est quand même beaucoup plus récent. Hein. Ça date de 4 ans. Voilà, c'est un livre qui est quand même beaucoup plus récent. Donc, voilà un petit peu les livres qu'il a donc écrits. Donc Greg Braden, bah, il s'aventure au-delà des frontières entre la science et la spiritualité en proposant des solutions sensées pour répondre aux défis de notre époque. Voilà. Donc en fait, il va pas chercher des choses un peu olé-olé, hein. Il va vraiment rechercher des choses concrètes hein, et scientifiques dans des textes spirituels. Parce que pour lui, les anciennes civilisations qui avaient une spiritualité, hein, qui n'avaient pas la connaissance de la physique actuelle qu'on a aujourd'hui, pour lui, ils avaient des connaissances quand même. Ils savaient déjà les choses que nous, on explique beaucoup plus facilement maintenant grâce bah, à la science. Eux, ils le connaissaient sous une autre forme. Hein. C'était donc sous la religion, la spiritualité, et des prières, etc. Ils connaissaient donc en fait sous ce côté-là. Alors aussi, bah, depuis qu'il a commencé à entrer dans ce domaine-là, il a été invité à plusieurs conférences internationales, dont celle de Milan en 2007, hein, qui consacrait justement, hein, j'ai marqué celle-ci parce que c'était celle de la Divine Matrice, que vous pourrez retrouver sur YouTube, hein, Vous tapez Greg Braden en français et vous tombez donc sur cette conférence de Milan, qui était en 2007, consacrée justement à la Divine Matrice, qui là, lui-même va vous expliquer en beaucoup plus en profondeur, hein, parce que là, ça va être vraiment un bon résumé, hein, des choses les plus importantes, mais il y a quand même des choses très intéressantes à voir, hein. Donc je vous conseille de voir aussi cette vidéo sur YouTube, hein, vous tapez Greg Braden en français. Et vous le trouvez. Il y a plusieurs versions. Il y en a qui sont coupées en plusieurs parties. Ou alors j'en ai trouvé une qui dure 3, ouais, à peu près 4 heures. Voilà. Qui dure 4 heures en une seule vidéo. Voilà. Et sinon, il a aussi été invité à des émissions télévisées, hein, comme sur les chaînes Discovery Channel, NBC, History Channel et Syfy. C'est un peu les chaînes où il a été apparu en tant qu'invité. Alors. La plupart de tous ces livres, hein, quand même, ils ont été traduits en 13 langues dans 25 pays, ce qui est quand même très important. Alors après, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'actualité de Greg Braden, eh ben, vous avez deux sites, hein, vous avez gregbraden, tout attaché, hein, .net, ou alors gregbraden.com. Voilà, les deux adresses sont effectives. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les dernières actualités, ou alors je crois qu'on peut le retrouver aussi sur Twitter. Et sur une page Facebook aussi, pareil, au même nom, hein, que vous retrouvez dans Greg Braden, voilà. Et sinon, là, les deux adresses, sont en fait ces deux sites officiels. Alors là, on va rentrer un petit peu dans le côté de la physique quantique. Alors, on va pas aller non plus trop en profondeur, hein, parce que ça reste quand même quelque chose de très compliqué, hein. C'est juste un petit peu l'historique de ce que c'est, comment c'est apparu, pour un peu mieux comprendre certaines choses par rapport à la Divine Matrice, hein, parce que, comme je vous disais, hein, ça englobe un peu les deux, et c'est vrai que c'est quand même très intéressant de savoir un peu de quoi ça parle. Hein, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Alors donc, la physique quantique, comment c'est apparu? Alors en 1838, hein, donc vous voyez, ça remonte quand même à très longtemps, hein, mais c'est pas encore le début. C'est vraiment le tout début, hein. On n'a pas encore utilisé ce terme de physique quantique, hein. Enfin, vous allez voir. Alors, en 1838, avec la découverte des rayons cathodiques par Michel Faraday, hein, donc Michel Faraday, vous connaissez, hein, la cage de Faraday. Ah, ça, je pense que tout le monde la connaît. Durant l'hiver 1859 à 1860, avec l'énoncé du problème du corps noir, par Gustave Kirchhoff, la suggestion en 1877 de Ludwig Boltzmann, alors j'écorche un petit peu les noms, mais bon, c'est pas très évident des fois, que les états d'énergie d'un système physique puissent être discrets. Voilà, bon, ça reste quand même très très obscur, hein. De toute façon, la physique quantique, c'est beaucoup plus reconnu maintenant à notre époque qu'il y a, par exemple, il y a 5-6 ans. Hein. Voilà, là, c'est beaucoup plus reconnu parce qu'elle répond à beaucoup plus de choses. Alors là, c'est vraiment le début. Là, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est le début de la physique quantique. Alors, l'hypothèse quantique de Max Planck. Alors, Max Planck, on va dire, c'est le créateur, entre guillemets, hein, c'est parce qu'il y a eu quand même des précurseurs, mais c'est vraiment lui le créateur de la physique quantique. C'est lui qui a vraiment lancé ceci. Donc, l'hypothèse quantique de Max Planck stipulant que tout système atomique irradiant de l'énergie peut être divisé en éléments d'énergie discrets tels que chacun de ces éléments est proportionnel à la fréquence avec laquelle chacun irradie individuellement son énergie, comme défini dans la formule. Voilà, donc en fait il a créé une formule, hein, je ne vais pas vous la donner non plus, hein. De toute façon vous pouvez la retrouver en recherchant, hein, sur Google, hein, physique quantique. Cette formule-là, en fait, il l'a créée pour permettre de quantifier justement cette quantité d'énergie, hein, qu'on appelle des quantas d'énergie. Voilà, mais vous allez voir un petit peu plus parce que justement, Einstein a repris le travail de Max Planck. Alors en 1905, afin d'expliquer l'effet photoélectrique, okay, qui s'est fait en 1839, hein, donc c'est-à-dire, vous voyez, ça remonte à l'époque de Michel Faraday, c'est-à-dire que l'irradiation lumineuse date, voilà, je me suis mal écrit, de matière, d'atomes matériaux, ouais, j'ai mal écrit là, puissent en éjecter des électrons, Albert Einstein postula en se basant sur l'hypothèse de Marc Planck, voilà, de Max Planck, pardon, que la lumière elle-même se composait de particules individuelles quantifiées, appelées par la suite photons. Ce terme-là est apparu en 1926. Voilà, qu'on appelle donc photon, photon de lumière. Voilà. Donc là, c'est pas Albert Einstein qui a donné le nom de photon, hein. Vous allez voir un peu plus tard qui a donné ce nom-là. Mais c'est lui qui a vraiment, qui s'est basé que par rapport aux recherches et à la formule de Max Planck, et bien il s'est justement aperçu que la lumière aussi elle-même se composait de particules individuelles quantifiées, hein, qui sont justement ces photons de lumière. Alors, l'expression mécanique quantique, parce qu'on entend beaucoup plus souvent la mécanique quantique que physique quantique, de toute façon les deux sont sensibles, hein, sont pareils. Fut utilisé pour la première fois en 1924, je vais pas y arriver, hein, par Max Born. Oui, ça fait beaucoup de Max, je sais, mais bon. Dans un article de Zur Quanten Mechanik. Bon, c'est un allemand, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu une consonance allemande. Voilà. Donc en fait, vous pouvez voir que donc Marc Planck, c'était justement donc le créateur de cette physique quantique. Alors, je prends mes notes pour continuer. Donc, en bref, un petit peu pour reprendre, mais alors schématisant, hein, je ne suis pas allé vraiment jusqu'à aujourd'hui, ni dès le début. Hein. Je dis, vous pouvez retrouver ces informations-là si vraiment vous voulez en savoir beaucoup plus sur la physique quantique. Vous pouvez retrouver beaucoup plus d'informations. Hop. Ouais, parce que j'essaye de savoir un petit peu pourquoi mon micro il fait des parasites. Hop, alors attendez, je vais juste régler. Voilà, je pense que c'est par rapport à ma lampe en fait qui doit créer des parasites. Bon, c'est pas très grave. Donc, pour reprendre, donc en 1900, donc Max Planck introduit l'idée de quantification de l'énergie, hein, donc la fameuse formule que je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Hop, voilà. En 1905, donc Albert Einstein a repris les travaux de Max Planck. Il explique l'effet photoélectrique que Michel Faraday avait donc observé. Comment dire? Que la lumière irradie, que cette lumière-là, hein, donc on appelle ça les radiations électromagnétiques, peut être divisée en quanta d'énergie. Voilà, donc ces quanta d'énergie, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ces quanta d'énergie, en fait, sont les photons, mais je vais vous l'expliquer après là. Voilà, c'est juste pour rapport là, à l'époque. Albert Einstein appelait ça les quantas d'énergie. Donc en 1926, Gilbert Newton-Lewis introduit le terme photon pour définir les quantas d'énergie de Einstein. Voilà, donc, vous voyez, donc c'est en fait Gilbert Newton-Lewis qui a créé le mot de photon, donc les photons de lumière, donc pour donner un nom beaucoup plus personnel par rapport aux quantas de lumière qui n'étaient pas très parlants. De Albert Einstein qu'il avait donc observé comment dire, pour expliquer l'effet photoélectrique. Voilà. Que la lumière, donc les rayonnements, enfin la radiation électromagnétique. En 1913, Niels Bohr explique. Oh putain, je me suis vraiment mal écrit. Hein. Ah voilà, les raies spectrales de l'atome d'hydrogène, donc Niels Bohr. Voilà, parce que ouais, j'avais oublié une note. D'ailleurs, vous le retrouvez dans les. Alors, si je me souviens bien, dans les tables atomiques, il y a justement son nom qui rentrait dedans par rapport à l'hydrogène. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est encore de la physique quantique. Et pour la dernière date, on va dire, de cette histoire-là, hein, en 1924, Louis de Broglie propose sa théorie d'onde. Va falloir vraiment que je fasse des efforts pour écrire, parce que des fois, j'arrive pas à m'en lire. Sa théorie d'onde en postulant que les particules pouvaient montrer des caractéristiques ondulatoires et vice-versa pour la lumière. Donc voilà, donc là, c'est un peu le côté des vibrations, vous voyez. Des vibrations, des rayonnements ondulatoires des matériaux. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la physique quantique, hein. C'est resté très très sommaire, hein. Parce que bon, on va pas rentrer dans le domaine, hein. Le but c'est pas non plus de vous abrutir de ces choses-là. Ce qu'il faut juste retenir un petit peu dans la physique quantique, c'est que bah, le créateur de cette physique quantique, bah, c'est quand même Max Planck, c'est lui qui a lancé ceci. Les photons de lumière, hein, bien à retenir hein, que Einstein les a observés et qui ont donc ce nom-là vient de Gilbert Newton-Lewis. Et aussi de retenir ce que je vous avais dit tout à l'heure au niveau de voilà de l'expression mécanique hein, qui a été écrit par Max Born. Voilà. Ce nom-là, voilà. C'est juste les petites choses à retenir au niveau de la physique quantique sans trop rentrer dans le complexe, hein. En résumé, ce que la physique quantique nous dit, c'est que, alors c'est pas pour faire peur aux gens, c'est que vraiment, tout ce qui nous entoure, ça rentre vraiment dans la physique quantique, c'est que tout ce qui nous entoure n'existe pas. Alors ça fait un peu peur, c'est-à-dire que moi, par exemple, là, le fait que je suis en train de vous parler et que vous êtes en train de m'écouter, bah, je n'existe pas. Ou que la chaise sur laquelle vous êtes assis, bah, non plus, elle n'existe pas. Les seules choses qui vous disent qu'elles existent, ce sont des informations électriques qui sont données au cerveau, hein, parce que ce sont donc les cinq sens. Quand vous touchez quelque chose, c'est une information électrique. Quand vous le sentez, c'est pareil. Quand vous voyez, c'est la même chose. Et quand vous entendez, c'est pareil. Et bah, le goût, c'est pareil. Ce sont tous des informations électriques. Alors j'ai mis de côté un petit peu le côté sixième sens, parce que moi, pour moi, c'est pas, on dit sixième sens, mais pour moi, c'est pas un sens, hein, à proprement parler. C'est plus autre chose qu'un sens. Enfin, pour moi. Voilà. Donc voilà. Un petit peu ce que c'est que la physique quantique, c'est voilà, c'est que en gros, c'est que bah, tout ce qui sera autour de nous n'existerait pas. Ce serait en fait un compressage de ces photons de lumière, tellement compressés, qui formerait ce qu'on voit. Alors justement, c'est là qu'on va maintenant basculer sur bah, la Divine Matrice, sur le livre de Greg Braden, et cette Divine Matrice qui va justement vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce que je vous explique là, parce que c'est vrai que c'est pas très 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 compréhensible, c'est un petit peu abstrait. Même moi dans la physique quantique, je ne suis pas non plus un expert. Il faut comprendre quand même que comment dire, dans la logique, c'est que tout va vraiment de la simplicité. Alors, bien sûr, quand on réfléchit comme ça, bon, quand c'est simple, ça va. Bon, après, si on veut approfondir dans la physique quantique, c'est-à-dire d'expliquer certaines choses, bah là, bon, c'est sûr, on rentre dans du compliqué, hein, comme la formule que Max Planck a créée pour quantifier ses quotas de comment dire, d'énergie. On a cherché le nom. Des quotas d'énergie, donc les photons de lumière. Ça a été vraiment une recherche extrêmement. Mais vous allez voir que dans la Divine Matrice, là, les choses sont vraiment très très simples et étaient connues de plusieurs civilisations de l'époque. Alors donc bah, la Divine Matrice, hein, le livre de Craig Braden, qui est justement le thème de ce soir. Alors c'est un best-seller qui est paru donc le 16 novembre 2007 aux éditions Ariane. Bon, là j'ai parlé de la date française, hein. Je ne suis pas sorti de la date, on va dire américaine, hein, parce que ce qui nous concerne, là, c'est une émission française, donc c'est au niveau de la date française. Alors, dans ce livre-là, il expose plusieurs choses. Alors, les découvertes les plus étonnantes qu'il a découvert, hein. Alors, il existe un champ d'énergie qui unit toute la création. Donc ça, c'est le premier. La première découverte. La deuxième découverte. Ce champ joue un rôle de contenant de part et de. Oh là là, j'ai vraiment mal écrit. Et de mettre. Ah non. Maintenant, ça y est. Non. Je me reprends. Ce champ joue donc un rôle de contenant, de pont. Voilà, j'ai cherché le nom de pont. Et de miroir. Pour nos croyances intérieures. Alors après, je vais vous argumenter un petit peu le truc, hein. La troisième, ce champ n'est pas localisé et il est holographique. Chacune de ces parties est connectée à toutes les autres. Et sur l'ensemble, on va dire à plus petite échelle. Donc ça, c'était ouais, parce que j'ai un petit mot qui est. Il va vraiment falloir que. Je le dis plusieurs fois, mais il va vraiment falloir que je fasse attention à l'écriture. Parce que là, c'est plus possible. Et justement, bah, la quatrième découverte importante, c'est que justement, ce champ-là, on communique avec lui par un langage qui est l'émotion. C'est pas le langage oral, c'est l'émotion. Parce que l'émotion est un langage. Alors, ce champ d'énergie qui unit toute la création, bah, c'est quelque chose de très important. Qui a été observé au niveau, on va dire au niveau scientifique, ça a été observé. Il y a des photos qui ont été, alors c'est une photo, mais en fait qui a été créée par rapport à des données informatiques recueillies un peu partout dans l'univers. Et c'est pour ça que là je vous dis vraiment de voir cette conférence, parce que là il met des images sur ça, parce que là c'est un peu dur de s'imaginer ça. Mais en fait il a fait la corrélation que en fait entre ces images-là de l'univers et les neurones, enfin l'énergie des neurones, bah, qu'elles étaient ressemblantes. Donc ça explique le côté que ces énergies-là, on peut interagir avec, et qu'on est unis par ce champ, on sent, hein, ce champ, on est unis dans la création. Voilà. C'est l'ensemble, l'univers, la Terre, nous, tout est vraiment ensemble. Donc là, c'est vrai que là, on passe à la deuxième. C'est ce qui joue le rôle de contenant, parce qu'on est contenu dedans. Mais à la fois, ça fait un pont entre d'autres choses. Un miroir, parce qu'en fait, ça reflète nos croyances intérieures. Hein, c'est-à-dire ce qu'on nous dit, par exemple, notre extérieur est le reflet de notre intérieur. Voyez? C'est expliqué, cette phrase-là hein, qu'on voit très souvent sur Facebook ou que beaucoup de gens spirituels sortent ou nous disent, ben voyez, d'un point de vue scientifique, c'est là, ça existe et c'est expliqué. Ce champ-là, il n'est pas localisé, il n'est pas un endroit précis, il est partout. Il est partout et en plus, il est holographique, c'est-à-dire que bah, il n'existe pas. À proprement parlant, il n'existe pas, c'est un hologramme. Mais il est bien quand même présent. C'est là qu'il est quand même très dur à comprendre au niveau de la physique quantique, c'est que c'est vraiment très très perturbant parce que c'est quelque chose qui est là, mais qui n'est pas là vraiment. Vous voyez, c'est vraiment très 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 compliqué à comprendre. Et en fait, toutes les parties de ce champ-là, ils sont connectés, hein. Ils sont connectés tous, tout est connecté. Et en plus, il reflète, voilà, c'était ça le mot que j'avais mal écrit, il reflète l'ensemble sur une plus petite échelle, c'est-à-dire que même si c'est plus petit, ça reflète la même chose. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'immense et de petit à la fois, mais qui est tout interconnecté. Tout est interconnecté. Oh là là, je ne vais pas y arriver ce soir. Et justement, bah, on communique avec ce champ-là par ce langage d'émotion. Alors, les émotions, c'est quoi? Bah, c'est la tristesse, la joie, le bonheur, la colère. Voilà. On interagit avec ce champ-là par rapport à ces émotions-là. Et vous allez voir un petit peu plus loin, plus loin dans cette émission, le rapport avec la loi d'attraction. Parce que vous allez voir que la divine matrice a un rapport direct avec cette loi d'attraction. Et là, ça va vous permettre d'expliquer certaines choses de cette loi d'attraction. Que ce n'est pas un truc totalement hasardeux, qu'il y a quand même des choses qui sont là. Alors, donc là c'était vraiment les découvertes les plus importantes. Donc là, on passe sur un autre truc par rapport aux scientifiques. La physique quantique a forcé les scientifiques en fait à se remettre en question. Alors sur plusieurs choses. L'ADN humain exerce un effet direct sur notre monde. Oui, c'est ça. Sur notre monde. Voilà. De comment il est fait. L'émotion humaine exerce un effet direct sur l'ADN, lequel affecte dont notre monde est fait. Voilà, c'est ça. Alors, ce dont notre monde est fait, on parle des photons de lumière. Voilà, des quantas d'énergie, si on veut revenir à ce que Albert Einstein a parlé. Voilà. La relation entre l'émotion et l'ADN transcende le temps et l'espace. Les effets sont les mêmes, quelle que soit la distance. Alors là, ça reste un petit peu abstrait, mais vous allez voir, je vais un peu mieux vous expliquer parce qu'en fait, il y a trois expériences. Hein, c'est ce que Greg Braden appelle les trois expériences qui démontrent justement ces trois points-là. Voilà, parce que là, c'est vrai que ça reste un petit peu absurde, enfin, c'est pas très compréhensible. On a du mal un peu à s'imaginer la chose. C'est pas très simple. Et avec les expériences, vous allez voir, c'est beaucoup plus compréhensible. Alors, justement, on va en venir à ces trois expériences. Alors, la toute première, en fait, elle a été faite dans les débuts 1990 par le physicien russe Vladimir Popenon. Alors, il a donc pris. Alors, j'essaye de vous expliquer un petit peu pourquoi vous vous imaginez en fait dans votre tête. Alors, vous imaginez un bocal en verre, totalement hermétique, dans lequel on fait le vide. Hein, donc, c'est comme si vous prenez une pompe et que vous faites de. Voilà, vous la videz. Hop, on va éviter que le câble tape sur le micro, ça fera moins de bruit. Voilà, donc vous faites le vide à l'intérieur de ce bocal totalement hermétique. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez des photons. Les photons de lumière, vous en avez, hein. Ou les quantas d'énergie, hein, si vous voulez vraiment rester le puriste. Voilà. Donc vous avez dedans ces photons qui sont de manière anarchique à l'intérieur. Donc, il y a le vide d'air, il n'y a rien du tout. Et vous avez les photons de lumière qui sont dedans, comme ça. Voilà, ils sont mis de façon peu importe. Ensuite. Justement, donc Vladimir Popenon, il s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si j'ajoutais de l'ADN humain à l'intérieur de ce bocal hermétique. Donc, bien sûr, dans les mêmes circonstances, ce bocal de verre totalement hermétique, vide d'air, avec donc ces photons de lumière qui sont de manière anarchique, et il a introduit l'ADN humain à l'intérieur. Et il a observé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que ces photons de lumière se sont accordés avec l'ADN humain. Ils se sont chut, clac. Ils ont changé de place. Dès lors où il a introduit l'ADN humain dans ce bocal-là, les photons de lumière se sont mis en concordance avec l'ADN. Instantanément. Alors, bon, il a retenu ça, il s'est dit, alors ok, d'accord, bon, ils se sont mis dans une certaine position. Il dit, mais qu'est-ce que il va se passer si je. J'enlève cet ADN-là. C'est-à-dire que ben, on redeviendrait comme au tout début. Voilà. C'est-à-dire les photons de lumière, le vide d'air dans le bocal étanche, sans l'ADN. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enlevé. Et il s'est aperçu que ces photons de lumière sont restés exactement pareils qu'au moment où il a introduit cet ADN. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas redevenus de façon anarchique. Donc, en fait, il s'est aperçu lors de cette expérience-là qu'il a procédé que l'ADN humain a un contact direct sur les photons de lumière et qu'en plus, ça n'a pas un effet momentané, c'est un effet perdurable, c'est-à-dire un effet qui dure dans le temps. C'est-à-dire que l'ADN va changer les photons de lumière de leur place et après, ils ne bougent plus, ils restent. Ils ne reviennent pas en position anarchique, c'est-à-dire bah, comme ils ont envie, quoi. Non, ils restent. Donc, l'ADN humain a un effet direct sur les photons de lumière et en plus qui perdure dans le temps. Voilà, donc ça c'est un petit peu le résumé de cette première expérience. Ensuite, il y a donc une deuxième expérience qui a été menée par des chercheurs de l'armée américaine, qu'ils ont pris donc. Alors. Là, je vous explique le cas d'un donneur, mais ils ont fait sur plusieurs personnes. Alors, ils ont pris de l'ADN d'un donneur qui était volontaire, et ils ont placé cet ADN-là dans un endroit neutre pour mesurer en fait les interactions entre cet ADN et le donneur. Donc, pareil, dans un environnement totalement isolé, hein, à 15 mètres de distance de la personne, hein, c'était dans une autre pièce, hein, ils le voyaient pas. Le donneur ne voyait pas l'ADN, hein, il voyait pas ce qui se passait et tout ça, donc voilà. Et donc ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis sous, ils ont fait une mise en situation par stimulation d'émotions, alors telles que la joie, la tristesse, la peur, la colère, le rire, la rage, etc., sur le donneur. Et donc, ils ont observé de l'autre côté l'ADN, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, ils ont vu qu'il y avait des choses qui se passaient. Et c'est-à-dire que l'ADN réagissait de façon instantanée par rapport aux émotions que le donneur avait. C'est-à-dire que quand il avait de la joie, du bonheur, du rire, l'ADN, il réagissait d'une certaine manière. Bon, ok. Ils ont fait on va dire des sentiments plus négatifs, hein, la rage, machin, nanana. Ils se sont aperçus que l'ADN réagissait aussi. Bon. Ils ont dit, bon, peut-être parce que c'est à 15 mètres de distance, c'est peut-être pas beaucoup. Alors, ils ont fait il y a le même genre d'expérience, beaucoup plus loin, hein, qui a été justement faite par le docteur Clive Baxter, qui a refait justement ce test-là. Mais avec donc un donneur qui se trouvait à Los Angeles et l'ADN qui se trouvait à Phoenix. Et c'est-à-dire qu'il y avait quand même une distance de 600 km, ce qui est quand même important. Et ben le résultat était instantané, exactement pareil. Ça faisait exactement la même chose, l'ADN réagissait. Pourtant, le donneur était à plus de 600 km. Donc, alors en résumé, qu'est-ce qu'a voulu expliquer cette expérience-là. Et bien en fait, l'ADN réagit en même temps, c'est-à-dire de façon instantanée, et n'a pas, peu importe la distance entre les deux. C'est-à-dire que il n'y a pas d'effet de comment dire de distance. Ça peut se trouver à plus de 6 000 km, voire autant que vous voulez, hein. Il n'y a pas de distance. C'est-à-dire, peu importe la distance, ça va réagir de façon instantanée. Voilà, un petit peu le résumé de cette expérience-là. Ils sont aperçus que l'ADN n'a peut réagir dans une distance illimitée. Voilà, ils n'ont pas trouvé de limite par rapport à ça. Donc la troisième et dernière expérience qui a été faite, justement. Alors, elle a été faite par l'Institut Earth-Mars, courant des années 90. Alors là, ils ont repris un petit peu le même procédé, hein, que l'expérience numéro 2, mais différemment. Alors là, ils ont pris un groupe de personnes qui étaient entraînées à éprouver des émotions sur demande, hein, comme je vous le disais, de la joie, du bonheur, la rage, la colère, voilà, ces deux sentiments-là. Donc, ils ont repris à chacun de ces personnes l'ADN qu'ils ont placé dans des endroits différents, bien sûr, pour mesurer les interactions. Donc là, après, ils ont passé par une phase de test sur les émotions positives, donc la joie, le rire, compagnie. Après, ils sont passés sur une phase de test pour les émotions négatives, donc la colère, la tristesse, etc. Donc, ils ont eu les mêmes effets, hein, bien sûr, hein, ils ont eu l'effet qui était instantané. Mais par contre, là, ils se sont aperçus d'une nouvelle chose. Ils se sont aperçus qu'il y a d'autres choses qui se sont formées. Parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin dans cette expérience-là. En fait, la numéro 3 est ni plus ni moins que la 2, mais beaucoup plus poussée. Alors, ils se sont aperçus que l'ADN, avec des émotions positives, elle se détendait. C'est-à-dire que voilà, vous savez à peu près à quoi ça ressemble de l'ADN. Si vous ne savez pas, vous tapez ADN sur Internet, vous allez voir un petit peu à ce que ça ressemble. Hein. C'est une ellipse, enfin non, pas une ellipse, c'est une spirale. Si vous voulez, un espèce de ressort. Hein. Bon, grosso modo, c'est un ressort. Hein. Voilà, on va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est un ressort hein, parce qu'il y a plusieurs ellipses et machin. Bon. Voilà, en gros, c'est un ressort. Voilà. Donc vous imaginez là un ressort. Et les émotions positives, bah, le ressort, il s'étire, il se détend. Et lors d'émotions négatives, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le ressort, bah, il s'est resserré. Il s'est resserré. Et là, justement, je vais en venir un petit peu. On s'est tous dit, des fois, quand on a, par exemple, des situations de stress, enfin, oui, c'est plus couramment du stress, hein, c'est-à-dire un travail très stressant, des choses comme ça, que vous avez au niveau, là, les muscles au niveau du dos qui sont durs. Qui sont durs, qui sont tendus. Et ben justement, réfléchissez, stress, c'est quoi? Ça génère une émotion négative. Donc, ADN qui se resserre. Donc, les muscles sont composés d'ADN. Ah, il y a les cellules et compagnie, oui. Mais qu'est-ce qui les compose, l'ADN? Eh bien, justement, vous dites ça. Ah, oui, contracté. Muscle qui se resserre, donc j'ai une émotion négative. Donc, en fait, cette émotion négative qui est jouée sur l'ADN, hein, parce que là, on voit que là, il y a une relation entre les émotions et l'ADN, qui, bien sûr, il n'y a pas de distance, hein, et qui, en plus, joue sur les photons de lumière. Donc, vous voyez, vous avez une émotion négative due par le stress, qui va donc resserrer votre ADN, qui va le resserrer, qui va donc agir sur ces photons de lumière, et ces photons de lumière vont jouer sur vos muscles, parce que, comme je vous disais, on n'existe pas réellement, parce que les seules choses qui nous disent qu'on existe, c'est que de l'énergie électrique. Et donc du coup, ça va être dur, ça va être dur. On va avoir mal. Et bien c'est tout simplement ça, c'est tout simplement cette émotion-là qui aura créé, qui aura généré en fait cette, ce resserrage de l'ADN. Et justement, comme beaucoup l'expliquent, hein, le maladie, maladie, mal à dit, et bien justement, ça vient de ça. Des émotions négatives de l'ADN qui seraient serrées et trop, 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 paf, ça finit par déclencher une maladie. Voilà, le cancer ou autre, peu importe, hein. C'est pour ça que je vous ai décomposé le mot mal à dit. Voilà. Donc, vous comprenez mieux un petit peu pourquoi des fois quand on dit ouais, je suis tendu, machin, nana et tout, bah c'est souvent, il faut peut-être se réfléchir s'il n'y a pas eu des émotions négatives avant. Alors pas 3 ans avant, hein. C'est quelques minutes avant. Ou quelques heures, hein. Des fois ça dépend comment ça va agir sur vous. Donc là, voilà, vous sentez vraiment le truc qui fait mal. Bah, vous pouvez vous dire que, ouais, il y a eu ce sentiment-là. De même que, par exemple, si vous êtes, je sais pas, vous écoutez de la musique, ou vous êtes dans dans votre bain, pardon, ou quelque chose qui vous fait vachement du bien, mais enfin que vous êtes détendu. Hein, on dit bien, ah, je suis détendu. Eh bah, ben oui, émotion positive, l'ADN se desserre, donc on est relâche. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent très, très facilement, hein. C'est vrai que c'est un peu, des fois, un petit peu abstrait à comprendre. Mais là, on comprend déjà un peu plus tout ceci avec justement ces expériences, hein. Vous voyez, c'est déjà un peu plus parlant quand même, hein. C'est un peu plus parlant. Alors, pour aller un petit peu, pour finir, on va dire, ce sujet, hein, parce que bon, c'est vrai que là, on a déjà pas mal attaqué les choses, hein. Je ne suis pas trop trop resté des heures dessus, je vais un petit peu plus m'étaler dans les quelques minutes qui restent d'émission. Alors, le fonctionnement de la divine matrice. Ben en fait, nous avons tous un pouvoir à l'intérieur de nous-mêmes qui n'est pas soumis aux lois physiques telles que nous les comprenons aujourd'hui. Voilà, donc là on parle des physiques conventionnelles. Parce que la physique quantique ou la mécanique quantique. C'est pas considéré comme une physique conventionnelle. D'ailleurs, il y a même encore de nos jours, hein, mais à l'époque, c'était vraiment un combat entre les physiciens qui étaient pour la physique quantique et ceux qui étaient pour la physique conventionnelle. C'était limite, ils prenaient un fusil, ils se tiraient dessus, quoi. C'était vraiment une guerre acharnée. Et bon, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, mais beaucoup moins parce que les autres se sont quand même aperçus que la physique quantique, elle commence à expliquer des choses qu'eux n'arrivaient pas à expliquer, qui n'arrivaient pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit sur les, enfin que j'ai mis justement que nous on les comprend aujourd'hui, hein, physique conventionnelle. Voilà. Alors quelque chose en nous est directement connecté donc avec ces émotions de notre corps. Les pensées, les sentiments, les prières et nos croyances transcendent les limites du temps et de l'espace telles que nous les comprenons actuellement. Donc voilà tout ce qui est nos pensées. Les sentiments, les prières, nos croyances. Et là, qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Eh oui, je pense que vous avez fait relation à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la fameuse loi d'attraction. Eh oui, parce qu'on dit très attention, qu'on dit attention à tes pensées, pensées positives, machin, nana, sentiments. Ben oui, il faut avoir de la joie, machin, si t'es pessimiste et tout, compagnie, en colère, il n'y a rien qui va avancer. Les prières, bah oui, souvent qu'on met par exemple je veux ça dans ma vie, je si je ça, bah quelque part c'est une prière. Et quand on y croit vraiment fort à ça, qu'on dit je l'ai, bah c'est une croyance. Donc vous voyez, on revient parfaitement à la loi d'attraction. La divine matrice et en fait la loi d'attraction sont la même chose, tout simplement. Tout expliquer de manière différente, mais on en revient à peu près à la même chose. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, notre intérieur façonne notre extérieur. Mais oui, comme je vous disais, hein, ce qu'on entend très souvent, hein, c'est notre extérieur, le reflet de notre intérieur. Tout simplement, grâce en fait à ces photons de lumière qui vont changer par le biais de notre ADN, ils vont s'harmoniser tel qu'on est. Mais par quels moyens? Par nos émotions. Parce que nos émotions, qui ont donc un effet sur notre ADN, que notre ADN a un effet sur les photons de lumière, hop, vous voyez, tout a une suite logique. Alors c'est sûr qu'au début, bon, des fois je me suis un petit peu égaré un peu à droite à gauche. J'ai des mots que aussi j'ai pas trop réussi à me relire. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Ça restait quand même très abstrait, mais maintenant vous voyez que c'est vraiment très logique, hein. Nos émotions, ADN, photons de lumière ou photons, et hop, c'est notre extérieur, vous voyez? On va de notre intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, c'est tout simple. En fait, il faut juste résumer que les choses sont simples. Dès lors où on va dans la complexité, c'est qu'on est vraiment dans le mental et on est trop dans la réflexion. Les choses, en fait, on va dire la vie, bah, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Dès lors où c'est compliqué, c'est que là, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout bon. Alors, vous allez me dire, oui, parce que je vous parle des émotions, du sentiment, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se crée un sentiment? Alors déjà, bon, je pense que tout le monde connaît les chakras. Hein, donc, je vais rester sur les chakras basiques, hein, pas les nouveaux qui sont au-dessus. Hein. Du cornal, hein, on va pas en parler. On reste vraiment sur les sept chakras hein, qui sont sur nous. Voilà, on va rester basique sur ça. Chakra, donc ça vient du sanskrit qui veut dire roue. Donc en fait, hein, faut s'imaginer que ce sont des roues entre guillemets. Hein, c'est plus des vortex d'énergie. Mais bon, là, c'est pas trop le sujet. Hein, c'est juste pour vous dire un petit peu pour la culture ce que c'est. Donc on en a sept. Et on part donc du bas. Donc c'est-à-dire du sol, hein, et on monte vers le haut, vers le ciel. Donc le premier, bon, vous avez donc le racine, hein, le sacré, hein, là je commence du bas, hein. Donc racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil et couronne. Voilà un petit peu où ça. Alors pour vous dire exactement où ça se trouve, je pense que le mieux c'est de rechercher sur Internet. Parce que c'est vrai qu'à vous le dire comme ça, il y en a qui ils n'ont pas trop les mêmes définitions. Plexus solaire, on va dire, ah, mais c'est. Ah, ben je crois que c'est mon nombril, machin. Donc voilà, le mieux, c'est que vous regardez sur Internet, hein, vous tapez chakra, et là, vous allez voir à peu près où il se trouve, en plus avec les couleurs. Voilà, comme ça, vous aurez tout. Alors, justement, là où je veux en venir, c'est que bah, les trois premiers, hein, donc c'est-à-dire le chakra racine, le chakra sacré, et le chakra du plexus solaire génère les émotions. Voilà. Donc les trois du bas génèrent les émotions. Les trois du haut, qui sont donc le chakra gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne, eux, ils génèrent les pensées. Voilà. Donc vous voyez, trois du haut, pensées, trois du bas, émotions. Vous allez me dire, mais il m'en manque un. Et oui, celui du cœur. Et vous allez voir pourquoi. Justement, si on assemble ses pensées et ses émotions ensemble, eh bien là, on crée le sentiment. Et le sentiment, justement, il vient du cœur. Vous voyez? C'est vraiment tout simple, en fait. Hein. Faut vraiment pas chercher des choses trop compliquées. Si vous allez vraiment chercher dans des choses extrêmement compliquées, vous allez vous perdre, mais alors. Vous allez aller très loin dans vos réflexions, hein, mais alors souvent vous allez partir à des années-lumière de on va dire, entre guillemets, de la vraie explication. La simplicité, c'est que bah, les choses sont simples. Voilà. Donc voilà, comment se crée un sentiment. C'est tout bête, hein. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Donc là, vous comprenez que bah, quand on dit l'ouverture du cœur, que c'est important, on va éviter que ça frotte ça, que c'est important, bah oui, parce que c'est là que se crée le sentiment. Voilà, c'est très important. Les trois du haut, trois chakras du haut, pensée, trois chakras du bas, émotion, les deux combinés au niveau du cœur, sentiment. Et vous remarquez, sept chakras. Donc, trois du haut, trois du bas, et le cœur, il se trouve au milieu. Bah, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc voilà comment se crée donc le sentiment. Alors, bah pour on va dire un petit peu résumer très basiquement ceci, hein, qu'on comprend les trois expériences que je vous ai expliquées, hein, et les résultats de celles-ci. On sait que nous on doit être le plus aligné possible et le plus centré sur soi. Alors quand je dis centré sur soi, c'est pas certains le prennent comme égoïste, mais attention, égoïste ne veut pas dire le côté de dire ah mais je ne donne rien, machin, nanana. Non, non. Des fois, il faut être un peu égoïste pour soi. Parce que sinon, si on donne, on donne, on donne, on donne, ben on va finir par se vider et on n'aura plus rien à donner. Donc il y a des moments où il faut donner, mais il y a des moments où il faut être centré sur soi. Donc voilà, sur soi, entre nos pensées et nos émotions. Donc vous voyez, trois chakras du haut, trois chakras du bas. Il faut toujours que ce soit le plus équilibré, parce que pour que le sentiment puisse être bien, il faut qu'il y ait 50-50. S'il y a trop de pensées, pas assez d'émotions, le sentiment va être un peu bancal. Il faut vraiment que les deux soient vraiment bien à moitié-moitié. Tac, 50-50, hop, 100%. Vous voyez? Et là, vous avez un sentiment qui est vraiment pur. Et qui est vraiment pur et qu'il n'y a pas de. D'ailleurs, ce sentiment-là qui sera vraiment à 100%, c'est très simple. Ça va, les gens qui seront à côté, même des gens qui pourront être insensibles, ils vont le ressentir. Ils vont le ressentir. Alors, ça peut être par exemple la naissance d'un bébé. Voilà. Ça va générer un sentiment. Et là, bah, personne n'est insensible à ça. Voilà. Et justement, dans la conférence de Greg Braden, il montre une petite vidéo où il y a des gens, bah, voilà. Et il leur montre exactement, voilà. Voilà ce que c'est qu'une émotion. Et cette émotion-là, c'est qui parle. Ces pensées vont générer justement ce sentiment-là. Et oui, ces émotions, ce sentiment, bah, c'est ça qui va permettre d'interagir avec ce champ qui nous entoure, dans lequel on est à l'intérieur. Et donc, je vous disais, le cœur qui est donc au centre. Ouais, faut pas que je parle trop fort là, parce que je suis un peu trop au taquet. Ben en fait, parce que, comment dire, le cœur a un effet magnétique beaucoup plus puissant. Alors, je sais plus trop par rapport au cerveau, je sais plus si c'est 300 ou moins, je sais plus, hein. De toute façon, ça, vous le retrouvez dans la conférence de Greg Braden. J'ai essayé de le rechercher, je l'ai pas trouvé. Parce que sur 3 heures de vidéo. J'avais pas trop le temps de regarder 3 heures de vidéo pour retrouver la chose. Donc voilà, il est beaucoup plus puissant que le cerveau. Alors c'est pour ça qu'on vous dit des fois dans la loi d'attraction, notamment dans le secret, qu'on vous dit vos pensées, vos pensées, vos pensées. Nanana, nanana. Non. Enfin, oui et non. C'est pas que ça. Il faut aussi travailler ses émotions. Parce que si vous avez des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives, et que vous avez des émotions négatives, des émotions négatives, des émotions négatives, bah, ça fait plus, moins 1, 0. Oui, parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, plus 1 et moins 1, ça fait 0. Hein. Voilà. Donc là, du coup, vous n'avez rien du tout qui sort. Il n'y a aucun sentiment. Par contre, si vous avez plus 1 en haut, plus 1 en bas, ça fait 2. Hop, c'est bon. Il y a un sentiment qui se crée. Et c'est ça qui va permettre. Vous pouvez faire l'expérience. J'ai fait l'expérience et vous allez voir que là, pour ceux qui ont des problèmes avec la loi d'attraction, que les choses n'arrivent pas. Bah, croyez-moi, si vous comprenez ce système-là, que vous le mettez en application, vous allez voir, ça va venir. Si vous combinez vos pensées avec vos émotions, vous allez voir, ça va venir, mais même des fois très rapidement. Je ne dis pas que ça va être hop, un claquement de doigts, non. Peut-être pas quand même. Heureusement, des fois, parce que des fois, si on avait des pensées négatives avec les émotions qui vont avec, le truc qui nous tombe dessus en moins de deux, quoi. Non. Voilà. Et parce qu'en fait, comme je vous disais, pour en revenir là, à cet effet magnétique du cœur, eh ben, y a des scientifiques, hein, justement le Institut Earthman, que je vous parlais tout à l'heure de la troisième expérience. Ils se sont aperçus qu'il y a un tore magnétique d'une taille de 1 à 3 mètres autour du cœur. Vous voyez, un tore magnétique. Alors, si, je ne sais pas si vous ne savez pas trop ce que c'est un tore magnétique. Hein. Vous imaginez par exemple le champ magnétique terrestre. Eh bien, c'est un tore magnétique qui nous en. Eh bien, vous avez la même chose au niveau du cœur. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver. À trop vous imaginer ce que c'est, vous tapez tore magnétique. Donc ça s'écrit TORE et magnétique, bah comme magnétique. Hein. Vous cherchez sur Internet, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et bien vous imaginez que vous avez votre cœur qui est là. Voilà. Et on comprend que justement ce cœur, bah, il est beaucoup plus puissant que le cerveau. Voilà. C'est un petit peu le résumé de la fin de cette émission. Alors, là, consacrée donc, à la divine matrice de Greg Braden. Donc, si vous comprenez vraiment ça, ces trois expériences, le côté d'assembler vos pensées avec vos émotions pour créer ce sentiment au niveau du cœur, hein, quand on dit l'ouverture du cœur, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Dès lors, vous comprendrez beaucoup de choses et au niveau de votre loi d'attraction, ça va vous aider sur vos croyances. Et là, vous allez voir que les choses vont venir beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite si vous y tenez, hein, je l'ai testé hein, parce que quand j'ai fait vu ce système-là, que j'avais vu la conférence, bon, j'ai pris les choses qui m'attiraient, hein, j'ai pas tout pris. Hein. Et là, ce que je vous ai expliqué là, c'est des choses qui m'avaient bien parlé, que j'ai mis en application et que honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. Si on s'y tient vraiment dedans, c'est quelque chose de très très efficace hein, et ça vous aidera justement sur votre loi d'attraction. Hein. Donc voilà, donc un petit peu cette émission-là qui était donc consacrée à la Divine Matrice et à Greg Braden, que je vous conseille de retrouver, hein, soit sur son site internet, hein, gregbraden.net ou .com, ou alors sur les pages Facebook ou Twitter. Et je vous conseille honnêtement de voir la vidéo sur YouTube. Vous tapez Greg Braden en français, hein, pour la conférence de Milan en 2007, hein, qui est consacrée donc à la Divine Matrice. Donc ça dure 4 heures. Hein. Et honnêtement, vous allez voir en image un petit peu ce que je vous ai expliqué et même d'autres choses. Hein, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment superbes. Notamment que cette technique-là, de la Divine Matrice, il y a des personnes, alors si je me souviens bien, c'est au Japon, je crois, qui sont capables de faire disparaître des tumeurs cancéreuses, mais énormes. Alors il y avait une vidéo, pendant la conférence, il passe une vidéo, mais on la voit pas. Dans l'enregistrement, on ne la voit pas, mais on peut la trouver sur Internet. Hein. On peut la trouver sur Internet, où en fait, ils ont fait une échographie en même temps que ces personnes, je pense que c'est des prêtres, enfin, je ne sais pas trop le nom exact, faisaient ce qu'ils avaient à faire, en fait, et on voyait au fur et à mesure cette tumeur disparaître. Donc là, on reprend encore le côté que, bah, justement, on peut créer des choses pour nous par le biais de cette matrice, mais on peut les créer aussi pour d'autres personnes. Bon, bien sûr, dans leur intérêt. Dans leur intérêt. Vous n'allez pas non plus modifier leur environnement, mais vous pouvez aider. C'est ce que justement, dans lequel je vous ai expliqué tout à l'heure, des personnes qui faisaient disparaître cette tumeur cancéreuse. Donc voilà. Voilà un petit peu cette émission-là, donc comme je vous disais, consacrée à la Divine Matrice et à Greg Braden avec un tout petit peu de physique quantique. Des petits problèmes techniques aussi au niveau du son. Alors j'espère que pendant l'enregistrement, ça ira, qu'il n'y aura pas le vrombissement que j'entendais, hein, parce qu'a priori j'étais trop près du transformateur de ma lampe qui influençait le micro. Donc voilà, pour ce soir, cette émission numéro 2. Justement consacré à cette divine matrice. Et puis bah, je vous dis bon bah tout de suite pour la libre antenne, en espérant que ça fonctionne, hein, que là on va passer par Skype, pas par le numéro de téléphone juste à cause de petits problèmes techniques. Et puis voilà, et je vous dis bah, pour ceux qui ne resteront pas pour la libre antenne, je vous dis donc bah, à la semaine prochaine pour un autre sujet. Tout aussi intéressant. Alors je vous dis pas quel sujet pour l'instant parce que ça peut très bien changer, hein, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris des choses très, très sympathiques. Et vous retrouverez ce podcast sur le site, hein, donc www.radioterrazen.tk. Vous le retrouverez donc dessus. Et voilà. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Et surtout, si vous voulez réagir, hein, vous pouvez réagir sur le billet qui sera sorti du podcast. Voilà. Bon, ben, je vous dis donc une très bonne soirée. À tout de suite pour ceux qui vont rester. Et sinon, à la semaine prochaine pour ceux qui nous quittent. Voilà, allez, ben, je vous dis à la semaine prochaine et passez une très bonne soirée. Allez, ciao, ciao.